Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Si vous parlez des suicides, vous les multipliez. Voilà comment l'ancien patron de France Télécom justifie la vague de suicides dans l'entreprise il y a 10 ans maintenant. Il la justifie par leur médiatisation. Deuxième journée d'audience lors du procès hier, compte rendu à suivre. Nous reviendrons ensuite sur la loi d'orientation des mobilités et la prime à la mobilité en entreprise, trajet en vélo ou en voiture. Elle pose de nombreuses questions. Dans ce journal encore, portrait du chef du gouvernement libyen, Fayez al-Sarraj. Il est aujourd'hui à Paris. Portrait aussi social en Cisjordanie pendant le ramadan des habitants sur place. Ramadan difficile en pleine crise économique, vous le comprendrez. Pour ceux qui espéraient un mot d'excuse, il n'en a rien été. Au procès de France Télécom pour harcèlement moral hier, l'ancien PDG de l'entreprise a provoqué un électrochoc. Alors que France Télécom était traversée par une vague de suicides entre 2007 et 2010, quand Didier Lombard était patron, il avait alors parlé de mode du suicide. Une expression qu'il regrette aujourd'hui, tout en la justifiant, Antoine Marette.
Didier Lombard explique que quand il est arrivé à la tête de l'entreprise, la situation était catastrophique. La maison était en péril à cause du surendettement, de l'agressivité de la concurrence et des évolutions technologiques, affirme-t-il dans une longue lettre qu'il lit devant le tribunal. Il fallait donc transformer l'entreprise. Et c'est ce qu'il a fait. Et quand la présidente lui demande si, selon lui, la transformation s'est bien ou mal passée, il montre du doigt une crise médiatique qui a cassé le moral des collaborateurs. Si vous parlez des suicides, vous les multipliez. C'est pour ça que j'ai parlé de mode du suicide, conclut-il, tout en regrettant son expression. L'avocate de Sud, maître Sylvie Topalov, ne cache pas sa colère.
Je suis sidéré que 10 ans plus tard, on vient nous servir exactement le même argument. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de crise sociale, il n'y a pas eu de crise des suicides. En réalité, c'est un phénomène médiatique. Il y a eu des effets de contagion sur le nombre de suicides. C'est-à-dire nier toutes sortes de responsabilités par rapport aux suicides. Ne même pas vouloir les prendre comme indice d'une crise sociale qui avait cours pendant l'année 2009. C'est effarant.
L'avocat de Didier Lombard reconnaît la maladresse de son client sur l'expression « mode du suicide », mais il tente de relativiser l'ampleur du phénomène au sein de l'entreprise en se risquant à une comparaison. En 2012, il y a eu 4 suicides parmi les 8000 magistrats, et c'est statistiquement beaucoup plus qu'à France Télécom, conclut-il.
Antoine Marette au tribunal correctionnel de Paris pour France Culture. Emmanuel Macron a rendu hier soir une visite surprise aux colistiers de la majorité présidentielle aux élections européennes. Dans un restaurant parisien, il a voulu sonner la mobilisation, leur apporter son soutien. La liste de la majorité étant à la peine dans les sondages à 18 jours du scrutin. Juste derrière le Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella, crédité de 21,5% des intentions de vote, la liste de Nathalie Loiseau enchaîne donc les maladresses. Et voici l'analyse de Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po Paris. Il était hier soir l'invité de Stanislas Vazak lors du journal de 22h.
Nathalie Loiseau a une première faiblesse, c'est qu'elle a une communication qui est assez maladroite. Son entrée en campagne face à Marine Le Pen sur le plateau de l'émission politique avait été un peu chaotique parce que Marine Le Pen avait senti venir en fait son annonce de candidature, s'était un peu moqué d'elle. Ça n'avait pas été très efficace. Il faut avouer qu'une déclaration comme celle qu'elle vient de faire, qui est de dire depuis le mémorial de la paix de Caen, alors qu'elle-même est accusée d'avoir été candidate sur une liste d'extrême droite, elle a comparé sa campagne à une blitzkrieg, ce qui n'est pas forcément très habile à la veille du 8 mai 45, par ailleurs, enfin de la célébration du 8 mai. Donc elle accumule un peu les bourdes, ce qui fait qu'au fond, elle affaiblit sa position et elle gagnerait peut-être à écouter davantage son entourage ou à être un tout petit peu plus en contrôle. On peut penser que c'est pour cette raison qu'Edouard Philippe a été dépêché à ses côtés.
Edouard Philippe, le Premier ministre, en meeting lundi soir aux côtés de Nathalie Loiseau et donc Emmanuel Macron plus discrètement hier soir à Paris. Emmanuel Macron qui avait promis une baisse d'impôts, elle est chiffrée depuis quelques jours par tous ses ministres, après Bruno Le Maire à l'économie, Edouard Philippe, Premier ministre hier. C'est Gérald Darmanin au compte public qui communique ce matin dans le Parisien. Il évoque une baisse d'impôts sur le revenu de 300 euros en moyenne sur l'année pour 95% des contribuables. Selon lui, le déficit français restera autour des 2% du PIB en 2020. Un peu plus, voire beaucoup plus, disent certains experts, alors que la dette de la sécurité sociale, elle, devrait se creuser. Au chapitre des annonces pour plus de pouvoir d'achat encore, ce financement pour les trajets domicile-travail. La loi d'orientation des mobilités propose aux employeurs de dédommager leurs salariés à hauteur de 400 euros par an. Aujourd'hui, cette prime mobilité ne concerne que les trajets effectués en vélo ou en covoiturage. Et c'est trop peu, Scarlett Bain.
Sur une grande partie du territoire français, les habitants n'ont pas d'autre moyen pour aller travailler que de prendre le volant. Du coup, le texte de loi ne satisfait pas les syndicats qui demandent que pour les zones le plus souvent rurales, où l'offre de transport en commun n'est pas satisfaisante, les trajets en voiture soient eux aussi indemnisés. Yves Verrier, secrétaire général de FO.
Quand vous avez 20, 30, 40 kilomètres à faire pour aller au travail, c'est pas forcément évident de trouver quelqu'un qui habite pas très loin de chez vous, qui travaille au même endroit avec les mêmes horaires pour que le covoiturage fonctionne, par exemple. Et donc, on a réinsisté, nous, pour que on imagine un dispositif qui prévoit qu'en dernier ressort, qu'un salarié puisse bénéficier d'une prime transport quand il n'a pas d'autre solution.
Le chèque transport pourrait se faire sur le modèle du ticket restaurant. Pour l'instant, dans le texte de loi, un tel dispositif serait mis en place après discussion entre les entreprises et les syndicats. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a expliqué que si les partenaires sociaux et le patronat ne se mettaient pas d'accord, l'État trancherait. Mais pour certains, la loi ne va pas assez loin. La mobilité, ce n'est pas que le trajet domicile-travail. Dominique Dumeau, président de l'Association des maires ruraux de la Sarthe.
La mobilité, c'est bien évidemment aller au travail, mais ce n'est pas que ça. C'est l'école, c'est les loisirs, c'est la culture, c'est les services publics. Et les entreprises n'ont pas non plus à payer pour la disparition des services publics ou pour l'éloignement des écoles en milieu rural. C'est une politique nationale qui crée ce déséquilibre et c'est donc à l'État de compenser.
Sachant qu'un habitant d'une zone rurale fait en France en moyenne 20 km pour accéder à des services publics.
Le Premier ministre libyen Fayez El-Sarraj est attendu à Paris ce mercredi. Il doit s'entretenir avec Emmanuel Macron. Après un détour par Rome et Berlin hier, le chef du gouvernement d'Union nationale installé à Tripoli semble de plus en plus isolé. Et face à l'offensive du maréchal Haftar dans son pays, il veut donc rallier publiquement tous ses soutiens européens. Son portrait ce matin est signé Valérie Crova.
Lorsqu'il débarque en mars 2016 dans le port de Tripoli, Fayez El-Sarraj a pour ambition de pacifier son pays. 3 ans plus tard, il se retrouve assiégé dans la capitale libyenne. Issu d'une grande famille, son père a été l'un des fondateurs de l'État libyen. Sarraj tire sa légitimité de la communauté internationale qu'il a adoubé chef du gouvernement d'Union nationale libyen. Mais sur le terrain, il ne peut pas rivaliser avec l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Haftar, soutenu par les Émirats arabes unis, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. En l'absence d'une armée forte, Sarraj s'appuie sur des milices et ne peut compter que sur quelques soutiens à l'étranger, dont la Turquie et le Qatar. En venant à Paris, Fayez El-Sarraj espère obtenir un soutien clair de la France, tiraillé entre la lutte contre le terrorisme dans une région très instable et la volonté de rétablir la paix dans un pays où elle est intervenue militairement en 2011 pour chasser Muammar Kadhafi.
L'Iran entend revenir un petit peu sur ses engagements pris dans le cadre de l'accord sur son nucléaire. Le ministre iranien des Affaires étrangères doit l'annoncer aujourd'hui, mais il prévient déjà qu'il ne va pas remettre en cause cet accord. Partons maintenant en Cisjordanie, où le Ramadan est en partie gâché en ce moment par la grave crise économique dans laquelle se trouve l'autorité palestinienne. Depuis 2 mois maintenant, les salaires ont diminué, la couverture sociale est fragilisée. Une crise liée évidemment au bras de fer avec Israël. C'est un reportage d'Étienne Monin.
À Ramallah, le père de Saïf est un haut fonctionnaire, mais cette position aujourd'hui est délicate. Les salaires du public ont été coupés de moitié depuis 2 mois. On fera comme on pourra pour le Ramadan, dit le jeune homme.
Ce sera un Ramadan triste pour tous les Palestiniens. On fera comme on pourra. On achètera ce qu'on pourra, moins qu'avant, c'est sûr.
Saïf travaille dans la principale chaîne de supermarchés en Palestine. Le Ramadan, normalement, c'est 30% de chiffre d'affaires en plus. Mais cette crise de financement oblige à plus de souplesse, explique Ali Charkas, chef des ventes chez Bravo.
On a augmenté les promotions. On les a lancées aujourd'hui et on fait des réductions même si les gens achètent en petite quantité. Parce que les revenus des clients maintenant ont chuté de 30 à 40%.
Depuis février maintenant, l'autorité palestinienne ne perçoit plus la TVA et les droits de douane palestiniens qui sont collectés par les Israéliens. Les dirigeants font en quelque sorte une grève des revenus pour protester contre une retenue à la source décidée par le Parlement israélien pour tenter d'empêcher le soutien financier aux familles de prisonniers palestiniens. Le manque à gagner pour l'autorité palestinienne est considérable. Il représente 65% du budget, mais le bras de fer est engagé, explique le politologue Hassan Kati.
Je pense que les Palestiniens se sentent dos au mur. Il y a le sentiment chez les dirigeants que s'ils permettent aux Israéliens ce type de déduction, ça va les encourager à refaire la même chose plus tard.
En interne, ce combat redonne du crédit à la présidence palestinienne et même les Israéliens semblent maintenant inquiets d'un risque d'effondrement.
Étienne Monin depuis Ramallah pour France Culture. Un temps maussade est prévu ce mercredi. La pluie va laisser place à l'orage. Il fait ce matin 12 degrés à Lille, 13 à Paris, 17 à Marseille.